En voyant une grande ville comme Douai, il est difficile d'imaginer la bourgade des origines. Aucun texte ne nous renseigne. Jusqu'aux fouilles archéologiques que nous allons voir, l'origine de Douai semblait définitivement perdue dans les cinq siècles obscurs du haut Moyen-Âge qui vont de la fin de l'Empire romain à l'an 1000. On connaissait jusqu'alors le noyau primitif de Douai, à partir duquel la ville s'est formée au Xe siècle, au XIIe et au XIVe siècle. Ce noyau est visible sur le plan en relief de 1709, conservé au musée de Douai. Au centre, l'enceinte primitive. L'emplacement du premier lieu de culte occupé ici par l'église, qui a été détruite pendant la Révolution. La vieille tour, résidence du châtelain, seigneur du lieu. La neuf tour, château du suzerain, le comte de Flandre, cité au XIIe siècle. Elle semblait située à l'emplacement de la fonderie royale de Canon contre le château comtal de la fin du Moyen Âge. C'est précisément cette éminence de 4 mètres de haut, couronnée par l'hémicycle de la fonderie de 1832, que nous avons fouillée avant qu'elle ne disparaisse pour faire place à un immeuble. La fouille a débuté 4 ans auparavant par des sondages. Une grande tranchée transversale, de 6 mètres de profondeur, nous révéla qu'il s'agissait bien d'une motte, avec les fondations d'un donjon, qui recouvrait un bâtiment en bois et des niveaux plus anciens. La motte a été alors évidée afin d'étudier les vestiges qu'elle avait recouverts. Les niveaux de sol ancien ont été fouillés suivant un quadrillage arbitraire de sondage qui permet de conserver un temps les témoins des couches que l'on détruit et facilite les relevés et vérifications. Tous les poteaux et fosses antérieures à l'an 1000 ont été reportés sur ce plan. Seule une faible superficie a été épargnée par le creusement des fossés de la motte. Au VIe siècle, sont creusés les fonds de cabanes mérovingiennes à 6 poteaux. Ces cabanes sont datées par des tessons ornés d'un décor à la molette, typique de l'époque. Elles étaient construites en bois et torchis et couvertes de chaume. Au 7e et 8e siècle, les cabanes sont plus grandes et empierrées de craie et de fragments de tuiles. Comme les précédentes, ces cabanes peuvent être non pas contemporaines, mais successives. Ces enclos au sol tourbeux se situent dans la boucle d'une petite rivière au bord de laquelle est construite une première enceinte en terre. De ce rempart en terre ne subsiste qu'un dépôt en pente coupé par la tranchée de fondation d'un rempart en pierre plus tardif. Au IXe siècle, les bâtiments deviennent plus denses jusqu'à former un quartier. Ce quartier agricole nous est mieux connu car deux de ses états ont été figés par deux incendies. Ce poteau, épargné par le premier incendie, a brûlé lors du second. Les surfaces des bâtiments se délimitent par les couches de torchis calcinées orange. Ici, recouvertes de nouveaux sols en terre battue, et par les cendres blanches du second incendie. La plupart des grands bâtiments devaient avoir des planchers chevillés aux poutres qu'un arrosage constant permet de conserver intact quelques heures pour leur étude. Là, deux poutres non carbonisées dans l'incendie sont disparues. Ces bâtiments étaient bordés de rigoles de drainage maintenues par deux crayonnages de baguette qu'il a fallu peindre pour les rendre apparentes sur l'image. Parfois subsistent entre les poteaux d'angle des bâtiments les traces des piquets des parois. Généralement, au poteau du premier incendie, dans son trou, ici en coupe, succède dans un trou adjacent un deuxième, ici arraché après le second incendie. Subsiste également la base d'une cloison intérieure avec encoche. La reconstruction entraîne peu de modifications. Les grands bâtiments avant le premier incendie et après reconstruction forment toujours deux alignements. Les petites cabanes à fond excavé pouvaient également servir de grenier, de grange, d'habitation ou de lieu de travail. Certaines possédaient un étage. Le pieu couché situe le plancher de l'étage à 1,70 m du fond. À nouveau, l'arrosage met mieux en évidence les structures découvertes. Cette coupe montre que la cabane excavée est détruite et comblée avant le second incendie dont le niveau noir apparaît sous la pierre. Souvent, des piquets, ici en blanc, délimitent des casiers pour entreposer des légumes ou des graines. Des fosses servaient aussi au stockage. Plus étroites et plus profondes, elles étaient protégées par des couvercles en bois dont les fixations subsistent. Transformées ensuite en dépotoirs, ces silos donnent des informations sur la vie quotidienne. Restes de repas, ici une poule dans son pot et un crâne de lapin. Là, du poisson, des noyaux de prune, de pêche, de cerise, des noisettes. Les poils trouvés dans le fumier des fosses permettent d'identifier le bétail élevé sur place. Les insectes fournissent également de nombreux renseignements. L'étude de ce blé révélera certaines traditions agricoles. La fouille nous renseigne aussi sur la façon de se chausser. Sur la toilette. Sur la sécurité des biens. On tondait les moutons avec ses instruments, des forces. On filait avec ses fusaïoles. Ce peson tendait les fils de trame du métier à tisser. Les vêtements étaient agrafés par des broches qui évoluaient avec la mode. La céramique, caractéristique d'une courte période, et la présence d'une stratigraphie réduite indique que peu d'années séparent les deux incendies successifs. Une monnaie de Charles Chauve, fils de Charlemagne, et le style des trouvailles révèlent que le second incendie peut correspondre au raid viking des années 880 qui, d'après les chroniques, détruisirent les villes de la région. Nous venons de vieillir la ville de 4 siècles, avec la terre noire du 6e ou 8e siècle et le quartier de l'époque carolingienne incendié deux fois. Nous allons aborder les résidences comtales avec ce sol couvert de clayonnage. Cette cave, avec escalier et large portail, présente les trous de poteaux d'un grand bâtiment à pans de bois d'un style nouveau. La reconstitution est bien sûr hypothétique. Dans les silos dépotoirs voisins, ont été trouvés pour la première fois des éperons. Et ce médaillon d'or, monté en broche, à l'effigie d'un empereur romain. Ces deux trouvailles suggèrent que le bâtiment abritait des gens de guerre, peut-être ceux du comte de Flandre ou le comte lui-même. Le fossé défensif, ici coupé transversalement, entourait un bâtiment remplaçant le précédent. Il confirme le caractère militaire de ces résidences. La seconde construction a été emmottée. De longs madriers horizontaux ont simplement été plaqués contre les montants verticaux par le poids des terres accumulées. Les montants, des troncs à peine équarris, sont enterrés sur 1,50 m dans des trous comblés d'argile jaune. Une fois le trou vidé, nous constatons que deux personnes pouvaient y descendre pour positionner les pieux. Dans ces encoches passaient des cordes pour faciliter la mise en place. À l'origine, les poteaux avaient plus de 5 mètres de haut. Sur les coupes, on suit les sols liés au rehaussement progressif de la motte. Ici apparaissent les pentes successives le long du bâtiment. Nous pouvons maintenant reconstituer l'histoire de la résidence. Ainsi s'est édifié le bâtiment principal. Les pieux du premier plan devaient correspondre à une porte fortifiée. À partir des vestiges du bâtiment, nous pouvons alors effectuer une reconstitution. La palissade qui devait border les fossés n'est attestée que sur un côté. Le chemin d'accès, en noir, a été rechargé de jonchées de bois et de clayonnage sur près d'un mètre d'épaisseur. Ces clayonnages de baguettes de noisetier tressées préservaient de la boue. Il se prolonge dans le bâtiment, où, relayé par trois poutres, il mène dans la pièce arrière. Leur usage est alors motivé par un sol instable, constitué de fumier et de litière de copeaux en décomposition. Dedans, ce galon précieux en soie, tissé peut-être dans l'Empire byzantin, est le seul élément qui atteste de la qualité des habitants. la partie arrière du bâtiment est détruite pour une raison inconnue. Cet abandon est prouvé par un ravinement du sol de cette même pièce, tandis que les litières continuent à s'accumuler quelque temps encore ailleurs. Le revêtement du bâtiment a peut-être été démonté pendant que le rez-de-chaussée était comblé. Une palissade devait couronner la motte rehaussée. Seuls les madriers verticaux renversés par le poids des terres subsistent. La motte est agrandie. Les fossés sont approfondis et après ouverture dans le rempart en terre, débouchent dans le fossé urbain. Nouvel agrandissement. Des constructions qui surmontaient la motte, il ne reste qu'un puits carré qui apparaît ici comblé en coupe sous la fondation du donjon. Le sol de la motte, très régulier, descend dans le fossé au-dessus de l'ancien chemin d'accès, visible en noir. La coupe du comblement du fossé révèle des remblais horizontaux volontaires qui correspondent à l'extension de la motte et au report du fossé sur un plus grand diamètre. La pente du nouveau fossé est protégée de l'érosion par une chape de craie. Après rehaussement vers le XIIe siècle, est bâti un donjon de 18 mètres de côté avec des murs de 4 mètres d'épaisseur. L'appartenance de ce château au comte de Flandre est alors indiquée dans un texte. Un rempart en pierre remplace l'enceinte urbaine en terre. La motte s'appuie bientôt sur ce rempart afin de permettre la construction d'un bâtiment de réception au-dessus d'une cave que nous avons dégagée. Ce bâtiment présente la même disposition que la résidence principale des comtes à Gand. Notre résidence des comtes est finalement mise hors d'usage et les fossés comblés. Les remblais de la cave contiennent divers objets, des poteries, une bague en or, et surtout des monnaies, dont une de Philippe Auguste, qui situe cette destruction après 1228. Il semble que ce roi de France ait mis le château hors d'état en occupant la ville. Des maisons particulières s'élèvent sur la motte en 1268. Un chemin empierré passe sur le fossé comblé, ainsi que nous l'apprend la charte de donation de cette parcelle. Cette pente, protégée par une chape de ciment, correspond bien à cette époque, car elle est liée à ce chemin. Il conduisait de l'église à la nouvelle résidence comtale, de l'autre côté du rempart. Ce n'est que vers le XIVe siècle que le donjon a dû être rasé, comme l'indiquent les trouvailles faites dans le puits, dont une partie a été préservée sous le niveau de la fondation. Ce puits s'ouvrait dans l'épaisseur du mur, ce qui permettait de tirer l'eau à tous les étages. Au XVe et XVIe siècle, la motte est agrandie. L'ancien rempart est démonté, rendu inutile par une enceinte plus grande. on retrouve la tranchée de fondation réouverte lors de la récupération de pierres. Côté extérieur, sont arrachés les moellons du parement. Début 17e, on réutilise à leur tour les pierres de fondation du donjon. Dans la tranchée sont jetés des milliers de débris domestiques. Une gravure nous apprend qu'un grand bâtiment, appelé le château, occupe la motte en 1627. Le plan en relief de 1709 présente la fonderie royale de Canon. En 1832 est construite une nouvelle et dernière fonderie. Notre maquette a recréé expérimentalement la stratigraphie observée sur le terrain. On retrouve les niveaux carolingiens, le rempart en terre, les premiers et seconds fossés, la cave, la tranchée de fondation du rempart, le bâtiment en bois. Résumons ce millénaire et demi d'histoire. 6e siècle, les cabanes. 7e et 8e, formation du quartier agricole. 9e, premier incendie. Reconstruction. Second incendie. 10e siècle, première et deuxième résidence. Onzième et douzième, le château des Comtes. 13e siècle, destruction, puis arasement au 14e. 16e siècle, récupération des matériaux. 17e, le château. 20e, destruction totale. Puissent ces fouilles faire prendre conscience de toutes les archives contenues dans le sol, qui disparaissent à jamais chaque jour avec les grands terrassements de notre époque.